Bonjour chers auditeurs, nous sommes des élèves de première au lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine et nous allons vous parler des violences policières. Nous avons décidé de travailler sur ce sujet car c'est tout d'abord un sujet d'actualité. Comme nous pouvons le voir avec la récente affaire de violences policières concernant un producteur de musique, Michel Zecler, à Paris, en novembre 2020. Puis ce sujet nous tient à cœur car nous pensons que c'est important de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Pourquoi certains policiers sont violents et surtout pourquoi la justice ne fait rien. Pourquoi y a-t-il des failles dans le système judiciaire aujourd'hui en France? Avec la loi de sécurité globale déposée à l'Assemblée nationale le 20 octobre 2020, un cap a été passé. Son article 24 visant à protéger les policiers face à la diffusion de leur visage en ligne ou ailleurs est vivement contesté par l'opinion publique.
Au cours de notre travail, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer, malgré les conditions sanitaires complexes, Noman, un journaliste photographe. Il nous a donné son avis et nous a fait part des expériences qu'il a pu vivre concernant la question des violences policières. Nous sommes interrogés sur la question de comment l'État sanctionne-t-il les violences policières. L'État accorde-t-il un traitement de faveur aux policiers? Tout d'abord, nous verrons comment se passe en théorie la prise en charge d'une affaire de violence policière, puis nous montrerons comment cela se passe en pratique, et enfin, nous aborderons les solutions proposées pour lutter contre les violences policières.
Lorsqu'une personne est victime de violences policières et qu'elle souhaite porter plainte, trois options s'offrent à elle. Elle peut soit se rendre dans un commissariat, soit déposer plainte auprès du procureur de la République, par courrier recommandé avec accusé de réception, ou soit signaler les faits de violence à l'IGPN sur le site en remplissant un formulaire ou alors en leur envoyant un courrier. L'Inspection générale de la police nationale, IGPN, est le service à compétence nationale chargé du contrôle des directions et services de la Direction générale de la police nationale et de la préfecture de police de Paris. Son rôle est d'améliorer le fonctionnement de l'instruction police nationale. Contrairement à la plainte, ce signalement n'entraîne pas nécessairement de poursuite judiciaire. À cet égard, la plainte auprès du procureur de la République par LRAR reste encore le moyen le plus pertinent.
Si elle décide de porter plainte au commissariat, l'agent de police qui recueille la plainte note la description des faits. L'agent de police doit remplir trois obligations. Remettre à la victime un formulaire lui indiquant ses droits d'indemnisation, l'informer qu'elle peut saisir une structure d'aide aux victimes, l'informer de son droit de se constituer partie civile, si la victime l'exige, lui remettre une copie du procès verbal de la plainte. En théorie, les forces de l'ordre sont obligées d'accepter une plainte relevant d'une infraction. Mais si le commissariat refuse d'enregistrer la plainte, la victime dispose de deux options. Elle peut saisir le défenseur des droits compétent pour vérifier les faits et saisir le procureur en cas de manquement ou effectuer un signalement à l'IGPN sur place ou en ligne. La décision finale sur l'orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Le procureur de la République est un magistrat qui exerce la fonction du ministère public dans un tribunal de grande instance. Il peut classer l'affaire sans suite ou faire juger le suspect. En cas de classement sans suite ou en l'absence de réponse du procureur dans les trois mois suivants le dépôt de plainte, il est possible de saisir directement le juge d'instruction en se constituant partie civile. Si la plainte est prise en compte, cette plainte avait constitution de partie civile, personne qui s'estime victime d'une infraction pénale et qui intervient dans une procédure afin d'obtenir une indemnisation de son préjudice, sera rédigée par un avocat et déposée auprès du doyen des juges d'instruction, qui fixe une consignation, une somme d'argent d'un montant variable mais souvent de 800 à 1000 euros, à verser par le plaignant. Le doyen désignera ensuite un juge d'instruction qui sera chargé d'instruire l'affaire. La consignation peut être entièrement prise en charge par l'aide juridictionnelle en fonction des revenus de la victime.
En temps normal, la réponse est simple. Si l'on est victime, la première étape est de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche pour déposer plainte. Si l'on est témoin, c'est le même mécanisme. On peut également faire le déplacement pour réaliser un signalement. En théorie, les cas de violence policière devraient être pris en compte tout d'abord par la police. Sauf qu'en pratique, des policiers qui reconnaissent et prennent en compte la violence d'autres policiers envers un civil, c'est compliqué. Dans le cas d'une violence policière, la personne dénoncée est elle-même un membre des forces de l'ordre. Or, bien souvent, dans les dossiers de violence policière, les policiers ou gendarmes refusent de prendre la plainte dirigée contre un collègue, alors même que le refus d'un dépôt de plainte est illégal. Article 15.3 du Code de procédure pénale. Dans tout le système de prise en charge d'une affaire de violence policière, on peut s'interroger sur la réception qu'en auront des autorités placées sous la même tutelle que celle des agents qu'elle est chargée d'interroger, comme l'IGPN auprès du procureur de la République, etc.
Plainte contre la police, on porte plainte dans un commissariat. Donc en fait, c'est comme s'il y a un souci avec un prof et qu'on va voir le prof principal pour en parler et que c'est le prof principal qui doit condamner son collègue. On sait que sauf si c'est un souci très très grave, a priori, il va toujours trouver un prétexte pour le couvrir. Et ben la police, c'est pareil. Et en fait, c'est pareil dans n'importe quelle profession. C'est compliqué que ça soit un collègue qui juge un autre collègue. Et donc, notamment là, récemment, j'ai été auditionné à la police des polices pour une affaire que j'ai filmée en 2019 pour deux policiers qui sont en train de tabasser un manifestant en 2019. Le 5 décembre 2019, je pourrais vous envoyer des images si vous voulez. Les images, elles ont fait le tour d'Internet. Elles ont permis à la justice d'ouvrir une enquête. Et quand j'ai été convoqué, quand j'ai été auditionné, en fait, j'avais en face de moi deux policiers qui étaient, eux, des anciens policiers du maintien de l'ordre, donc qui étaient CRS, en fait. Et en gros, ils m'ont expliqué que c'est pas possible que leurs collègues puissent taper comme ça quelqu'un pour rien, que peut-être que l'individu qui se fait tabasser, il les avait peut-être insultés, ou peut-être qu'il avait lancé un projectile, ou peut-être qu'il avait cassé une vitrine. Et pour moi, c'est pas entendable, en fait. C'est-à-dire que quand bien même l'individu a insulté la police, ce qui est possible, je sais pas, j'ai pas vu le début de la scène. Mais si tu insultes un policier aujourd'hui, dans la loi, ça s'appelle un outrage à agent, outrage à dépositaire, personne dépositaire de l'autorité publique, et donc c'est condamnable. Si tu fais un doigt d'honneur à un policier, si tu l'insultes, tu as une amende. Mais en aucun cas, cet acte-là d'insulter un policier doit entraîner une vengeance personnelle du policier. En aucun cas, tu dois te faire tabasser au sol, à te prendre des dizaines de coups de pied dans le visage, quand bien même tu aurais insulté. Et en fait, c'est encadré. C'est-à-dire que la police est très protégée par les lois. Donc, il y a toute une panoplie d'outils qui nous concernent, nous, en tant que citoyennes et citoyens. Si on insulte, si on a un délit de fuite, si on est injurieux, violent ou quoi que ce soit, nous, on est condamnés et condamnables. Mais là, en l'occurrence, cette personne ne s'est pas fait interpeller. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment deux policiers qui se sont défoulés sur lui pour rien. Et donc, quand j'ai été auditionné, les policiers m'ont fait comprendre que de toute façon, ils trouveraient une faille pour défendre leurs collègues et non pas défendre l'individu qui est au sol. Et que de toute façon, ça ira toujours dans ce sens-là. Et d'ailleurs, les résultats des enquêtes me donnent raison parce qu'il y a très rarement, sur tous les cas de violence policière qui ont été signalés, il y a très rarement des condamnations. D'accord. Les rares condamnations qu'il y a sur la police, c'est lorsqu'il y a par exemple des policiers qui se font surprendre en train de trafiquer des stupéfiants en grande quantité, par exemple, quand ils détournent des fonds de stupéfiants ou ce genre de choses. Parce que là, ça porte vraiment atteinte à la police. Mais sur des faits de violence, en fait, ça reviendrait aux policiers qui jugent leurs collègues, ça reviendrait à ces policiers-là à donner raison finalement aux victimes. Et donc les victimes, c'est soit des manifestantes et des manifestants, soit encore une fois des habitants de quartiers populaires. Et on sait que les policiers n'ont pas trop envie de privilégier des habitants de quartiers populaires par rapport à leurs collègues policiers.
Dans l'interview que nous avons eue avec Noman, celui-ci nous a rapporté son expérience personnelle de violence policière qu'il a vécue étant jeune avec son frère. Son expérience témoigne de l'inefficacité de la prise en compte des violences policières et surtout du rapport de force inexpliqué.
La première violence policière que j'ai subie, j'étais en quatrième. J'étais parti me balader à Paris avec mon grand frère. Et en fait, on a subi un contrôle policier qui était assez violent. En gros, il y a trois policiers qui sont arrivés vers nous dans le métro en courant, qui nous ont plaqués contre le mur et qui ont été hyper agressifs. Et donc, mon frère, en fait, n'a pas voulu se laisser faire. En tout cas, il s'est un petit peu débattu parce qu'on ne comprenait pas la violence du contrôle, sachant qu'on rentrait chez nous et qu'on n'avait vraiment pas fait de conneries. Et en fait, voyant que mon frère se débattait et que les passants commençaient à s'arrêter, et je vous parle de ça, moi, quand j'étais en quatrième, il y avait des portables, évidemment, mais il n'y avait pas encore de portables. Les vidéos, les appareils photos sur les téléphones portables, ce n'était pas généralisé comme aujourd'hui. Du coup, en fait, c'est des choses qui ne pouvaient pas être documentées, qui n'étaient pas visibles. Donc, le fait que les gens s'arrêtent pour regarder, ça a dérangé les policiers qui ont ouvert un petit local de la RATP, c'était au métro Bastille. Ils ont ouvert un petit local et ils nous ont fait rentrer dans le local. Et là, ils nous ont humiliés, ils nous ont contrôlés, palpés et ils nous ont frappés. Alors, la chance qu'on a eue, c'est que on n'a pas été tabassés, on n'a pas été défigurés, mais on a mangé plusieurs baffes, plusieurs droites dans le visage, alors que rien ne justifiait ce truc-là, en fait. Ensuite, ils nous ont laissé partir. Et du coup, en rentrant chez nous, on en a parlé à notre mère avec qui on habitait à l'époque. Et on a essayé, en effet, de faire des recours. C'est-à-dire que le lendemain, on est allé avec ma mère directement dans le métro pour demander aux agents de la RATP d'avoir accès aux vidéosurveillance. Et en fait, bah là, on a pris conscience, déjà en quatrième, que en fait, on ne pourrait jamais gagner. Surtout sur une violence comme ça qui est grave, mais finalement qui est nettement moins grave que ce qui... Pour eux, c'est quasiment quotidien, ce genre de violence. quand je dis pour eux, je parle pour la police. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait en face de nous un agent RATP qui nous expliquait qu'il n'avait pas accès aux images, qu'il fallait porter plainte, faire des recours et tout ça. Et donc, on l'a fait quand même. On est allé jusqu'au bout. On a porté plainte donc à la police des polices, à l'IGPN. On a été convoqué des mois et des mois après. Je me souviens, c'était assez compliqué parce que j'ai été reçu du coup par plusieurs inspecteurs de police qui, pendant mon audition, rigolaient. Tu vois, donc ils me posaient des questions. Quand je répondais, littéralement, ils étaient morts de rire en fait. Enfin, vraiment, on voyait qu'ils s'en foutaient quoi. Ils avaient en face d'eux un jeune de quatrième qui allait de toute façon pas porter atteinte à l'intégrité de la fille, enfin à l'intégrité morale de la police. C'est pas ma plainte qui allait les atteindre. Et quelques mois, voire un an après, on a reçu un courrier qui nous expliquait que c'était classé sans suite. Et donc, il n'y aurait pas de recours, qu'il n'y aurait rien. Et donc là, j'ai compris, en fait. J'ai compris que c'était pas normal, que c'était grave. Et c'est surtout quand j'en parlais autour de moi et que j'en ai parlé à ma mère, quand on a vu qu'elle ne nous croyait pas de ouf, en fait, je me suis dit qu'il fallait que plus tard, je mette mon énergie, une partie de mon énergie, en tout cas, pour expliquer aux gens ce que c'est que cette brutalité. Et du coup, en parlant autour de moi, j'ai compris que d'autres personnes, en fait, des potes à moi, se faisaient contrôler beaucoup plus que moi. Et que finalement, il y a beaucoup de gens qui avaient intégré ce truc-là et qui acceptaient ce truc-là. Et que, encore aujourd'hui, hein, j'ai plein de potes qui se font contrôler plusieurs fois par jour et qui intègrent et qui acceptent finalement cette chose-là. Et voilà, moi, je crois que c'est pas acceptable et qu'il faut. Que c'était un peu mon devoir citoyen, je dirais même, de dénoncer ça, en fait.
Le problème majeur est tout d'abord présent dans le concours de police. En effet, Noman nous a expliqué précisément que le concours pour devenir policier s'est allégé. Il est plus simple, voire même donné à quiconque veut devenir policier. Cet allègement du concours de policier a pour effet de laisser entrer des gens incompétents, voire même peut-être dangereux dans la police. Cette baisse des critères d'admission dans la police amène une baisse des compétences. Et donc, certains policiers commettent des actes non contrôlés qui sont justement dus à un manque de formation et de contrôle des compétences nécessaires pour devenir policier. Plusieurs affaires de tir, de flashball, nous montrent l'incompétence de l'utilisation de ces armes dangereuses. De nombreuses personnes ont été éborgnées à cause d'une mauvaise utilisation de ces armes, comme Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes blessé grièvement le 26 janvier 2019, ou encore un jeune homme de 19 ans éborgné dans l'Essonne en février 2020.
Proposer des solutions radicales pour réglementer la police est compliqué. C'est rare que des ministres ou autres tentent de faire quelque chose car les policiers sont des fonctionnaires armés et essentiels à la vie quotidienne.
Ils sont protégés par leurs collègues qui enquêtent sur eux et par leurs syndicats de police qui sont extrêmement puissants et qui peuvent, dans une certaine mesure, mettre la pression aux différents ministres, en fait. Ça veut dire que quand un ministre essaye de s'attaquer à la police en disant « moi je veux réglementer la police, je veux plus qu'il y ait de violence policière par exemple », eh ben, les syndicats font un appel à la grève et disent au ministre si vous faites ça, nous, pendant 3 jours, on travaille plus, ou on travaille au strict minimum. Et donc, quand vous avez d'un coup des milliers de policiers armés qui décident de plus assurer, la protection des ministres, par exemple, ou la protection des sites dangereux dans Paris ou en France, et ben forcément, ça crée un rapport de force favorable à la police. Et du coup, c'est rare que les ministres s'attaquent véritablement au problème.
Mais les policiers ne doivent pas être juste mieux réglementés, ils doivent aussi être mieux formés, mieux choisis, car c'est un métier qui requiert beaucoup de capacités physiques et mentales. Comme on l'a observé ces dernières années, il y a une baisse des critères d'admission des policiers, ça doit aussi changer.
Réaugmenter les critères d'admission de la police. Depuis les attentats de 2015, on a en fait des gouvernements successifs qui veulent intégrer de plus en plus de monde dans la police pour protéger la population, ou en tout cas pour donner à la population le sentiment d'être bien protégée, parce qu'il y a beaucoup de policiers. Et du coup, ils réduisent petit à petit, il y a des articles récents qui sont sortis là-dessus, ils réduisent petit à petit la note d'admission au concours de police. C'est-à-dire que quand tu veux devenir policier, si tu as le bac, tu passes un certain concours. Si tu n'as pas le bac, c'est un autre concours un peu plus facile. Et si tu as un bac plus 3, par exemple, tu peux rentrer dans la police avec un directement gradé. Et si tu as bac plus 5 ou bac plus 7, tu peux rentrer commissaire. Le concours d'admission, avant, il fallait, je crois, c'était 12. Si tu avais 12 sur 20, tu pouvais rentrer en école, en formation de police. Ensuite, ils ont descendu à 10. Donc maintenant, c'était juste la moyenne. Et maintenant, si tu as 7 ou 6, tu peux rentrer. Donc ça veut dire que plus le temps passe, plus on baisse les critères d'admission pour faire rentrer beaucoup plus.
À cause de cela, on a des individus qui ne sont pas aptes à ce métier et qui se retrouvent dans des situations qu'ils ne savent ou ne peuvent pas gérer.
C'est-à-dire qu'il n'a pas les bases soit les bases juridiques, soit les bases de culture, soit les bases sportives, soit les bases psychologiques pour être policier. Quand on réduit à ce point les critères et qu'on dit à quelqu'un qu'à 6 sur 20, bah tiens, ok, tu peux devenir policier, donc voilà une arme, voilà un uniforme et voilà du pouvoir, eh ben ça peut, pas forcément, mais ça peut être quelqu'un qui va complètement déraper et qui va pas savoir gérer les situations. Par contre, si on dit aux gens, voilà, au test psychologique, tu as eu 12 sur 20, donc ça veut dire que tu es apte psychologiquement à supporter de la pression, à supporter un guet-apens, à supporter des cadences de travail difficiles, et ben là, on va être en face de gens qui ont un meilleur sang-froid, qui ont une meilleure condition mentale et qui sont plus à même d'évaluer.
De plus, on a le problème de l'IGPN, qui est la police des polices, et qui enquête sur les bavures d'autres policiers. On a donc des policiers qui se retrouvent à enquêter sur leurs collègues. C'est normal qu'il y ait un conflit d'intérêts.
Porter plainte contre les violences policières, on devrait porter plainte auprès de personnes indépendantes, qui sont complètement indépendantes, donc même pas missionnées par le gouvernement. On devrait avoir affaire à des juges, à des magistrats qui prennent le dossier en main et qui mènent une enquête. Ou à des enquêteurs.
Nous avons donc des lois qui sont maintenant favorables aux policiers, des policiers inaptes à la fonction qui ont du pouvoir, et tout ça jugé par d'autres policiers. Les policiers sont protégés pas seulement par la loi, ils le sont par toutes les institutions qui les entourent, et pour changer ça, il faudrait énormément de temps, de réformes et de coopération de la part de policiers qui ne veulent pas que ça change.